Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre réunion de ce soir. Nous continuons l'étude des 37 pratiques de Bodhisattva de Tomé Sangpo. Nous avons ces dernières sessions vu l'évitement des mauvais amis, des mauvaises circonstances. Nous avons vu cultiver la relation avec l'ami de vertu. Et la stance qui suit, la septième, et sur l'entrée en refuge. Qu'est-ce que qu'entrer en refuge? C'est une notion qui est difficile, qui est délicate, et en même temps qui est fondamental et qui peut même, à la limite, résumer toute la voie spirituelle. Déjà, sur le terme « entrer en refuge », que l'on utilise plutôt que « prendre refuge ». Je ne sais pas pourquoi, mais dans l'usage, on trouve beaucoup « prendre refuge ». C'est d'autant plus curieux que ça ne correspond pas ni à l'expression sanscrite, ni à l'expression tibétaine, dont c'est la traduction. L'on va, littéralement, en refuge, ou l'on n'entre en refuge. Il ne s'agit pas d'une prise, d'autant qu'entrer en refuge est plutôt lâcher prise dans le sens de s'en remettre à. Il ne s'agit pas de s'accrocher, mais plutôt de décrocher. Donc, nous utilisons plutôt entrer en refuge. Ensuite, la notion de refuge. Pourquoi parler de refuge? Qu'est-ce qu'un refuge? Nous avons des refuges sur le bord de l'autoroute, certaines fois, un refuge. Nous avons des refuges de montagne. Un refuge est un endroit où l'on trouve une protection. Donc, la notion de refuge est associée à celle de protection. De protection ou de lieu où l'on est protégé. Où l'on est protégé des dangers. Un lieu sûr, un lieu où l'on n'a pas à craindre et où il est une protection par rapport à ce qui pourrait être menaçant. Un refuge est un lieu, on pourrait dire, de non-peur, où l'on est protégé de ce qui pourrait nous faire peur, ou des risques. Donc, cette entrée en refuge et se placer dans une situation ou entrer en un état, entrer en présence ou entrer dans une expérience de présence qui a une faculté qui est de nous protéger, de nous garder des peurs, de la peur. Pourquoi? Il y aurait ici une considération extrêmement importante eu égard à la peur. La peur est au fond de au fond de soi. La peur anime nos illusions. La peur aussi stimule et anime nos comportements passionnels. Au fond du samsara, au fond de l'illusion et de ses passions, est une peur ou de la peur. Peur de quoi? Alors, peur de souffrir, peur du manque, peur de la perte, peur de se perdre, peur de mourir. Mais crainte des souffrances. Et entrer en refuge et entrer en la présence de ce que l'on nomme les trois joyaux, les trois précieux, on dit aussi les trois rares et sublimes, qui sont l'éveil, l'expression de l'éveil, de sa manifestation en trois dimensions. Et l'on peut distinguer les trois joyaux extérieurs, intérieurs, fondamentaux. Mais simplement, les trois joyaux, habituellement, se disent Bouddha, Dharma et Sangha. Bouddha ayant le sens d'éveiller, le Bouddha c'est l'éveillé, celui qui s'est éveillé de l'illusion semblable au rêve, il s'est éveillé du rêve des illusions de l'ignorance, comme on dit. Donc, l'éveillé, ainsi au sens fort. Et le Bouddha est aussi l'état d'éveil. La bouddhéité, si l'on peut dire. Dharma, le deuxième des trois joyaux. Le dharma est l'enseignement du Bouddha, la parole du Bouddha. C'est l'enseignement de réalité, comme on dit. L'enseignement qui expose ce qui est, ce que je suis, et qui est par sa compréhension et son expérience, permet de se libérer des fausses réalités, des illusions, et qui permet de réaliser la véritable réalité. Donc, c'est une voie de libération des illusions, des passions, et de réalisation de la réalité éveillée, disons. Troisième des trois joyaux, Sangha. Le Sangha et les personnes, les pratiquants qui suivent le Dharma, qui sont engagés dans la voie, qui cheminent sur celle-ci. Dans l'entrée en refuge est entrée ou se tourner vers l'éveil. Alors, suivant les niveaux, ça peut être se tourner vers l'éveil, s'orienter vers l'état d'éveil, le prendre comme voie, le prendre comme destination. Le Bouddha, la bouddhéité, peut être vu comme destination. Dharma, à ce moment-là, et plus particulièrement le cheminement, la voie qui va nous mener d'ici où nous sommes à cette destination, l'éveil, et le Sangha sont les voyageurs, les cheminants qui parcourent la voie. Alors, il y aurait des distinctions et des catégories particulières. Nous les verrons plus en détail dans l'étude des trois joyaux, de leurs qualités, de leurs caractéristiques. Ce qui est pour l'instant nous concerne avec cette stance, c'est l'entrée en refuge, qui est, comme vous le savez, la pratique ou l'attitude que l'on génère chaque fois que l'on commence une méditation, une pratique, quelle qu'elle soit. Et entrer en refuge donne à notre pratique ainsi son orientation, son intention, d'une part, et aussi nous mettre en sécurité dans la guidance ou la présence, dans l'inspiration des trois joyaux qui va animer la pratique et qui sont là comme garant, comme on pourrait dire aussi protecteur, guide. Non. La pratique du refuge consiste ainsi à savoir s'en remettre, pouvoir s'ouvrir aux trois joyaux, s'en remettre à eux, et c'est ainsi que l'on peut bien les suivre, que l'on peut bien suivre la pratique. La stance elle-même dit « Eux-mêmes enchaînés en la prison du cycle du samsara, qui des dieux de ce monde pourrait-il bien protéger ?» Aussi, s'en remettons à ceux dont la protection est infaillible, entrer en le précieux refuge, telle est la pratique d'un bodhisattva. Alors, il y a déjà l'idée de ne pas se tourner vers ce qui est appelé des dieux de ce monde, des dieux mondains. De fait, dans nos comportements habituels, nous avons souvent tendance à chercher refuge dans des dieux mondains. Il y a des dieux très mondains et il y a des dieux subtilement mondains. Dans les dieux mondains, il y a SAP. SAP est un acronyme pour SAP. Sexe, argent, pouvoir. Alors, ça peut être aussi pas. Pouvoir, argent et sexe. Ça dépend des tendances de chacun. On peut être plus particulièrement porté sur l'un ou sur l'autre. Mais une forme de, souvent de fuite ou de dépendance ou le fait de trouver un dérivatif, distraction et une certaine forme, alors ici refuge bien sûr est un petit peu inhabituel dans ce contexte, mais ne pas s'en remettre à ces dieux mondains, à ne pas être, à ne pas tomber sous leur emprise et leur pouvoir. Car il est sûr qu'ils ne vont pas nous protéger du samsara. Donc, maintenant, il y a d'autres dieux mondains. Et d'une certaine façon, tous les dieux qui sont des dieux mondains. Ou, dit autrement, tout dieu anthropomorphe est un dieu mondain, que ce soit dans l'anthropomorphisme grossier, subtil ou fondamental. Le fondamental, pour ne parler que de celui-ci, étant de s'en remettre à un autre dans la dualité, dans l'altérité, un autre qui soit un autre radical, un tout autre, à jamais atteignable, irréductiblement autre, et c'est s'en remettre à la dualité. Et la dualité ne nous libérera pas du samsara. La libération du samsara étant justement et précisément celle de la dualité. Donc, d'une façon grossière, subtile ou fondamentale, savoir ne pas tomber sous la dépendance des dieux de ce monde, ce qui veut dire leur possession, être possédé par ceux-ci, ce qui peut vouloir dire aussi leur addiction, ce qui peut vouloir dire aussi leur croyance. Et une autre façon de dire les dieux mondains, ce sont les les idéaux extrémistes. Ou même les vues extrémistes. Les idéaux, les vues ou les conceptions qui sont saisies comme la saisie d'extrême, quel que soit l'extrémisme dont il s'agit, et finalement est toujours un asservissement, une aliénation et une forme d'enchaînement et d'attache au samsara. Donc, on évitera les dieux mondains dans ces différents sens. Aussi, s'en remettons à ceux dont la protection est infaillible. Alors, ceux dont la protection est infaillible, ce sont les trois joyaux. Et le « ce » ici qui est les objectifs pose effectivement question. Il y a les trois joyaux relatifs et les trois joyaux absolus. Et c'est très important. L'on est dans le relatif et dans le relationnel au début, et notre conscience habituelle, qui est aussi conscience samsarique et duelle, relationnelle, et l'on a besoin de s'en remettre à ce qu'est l'éveil et ce qui représente l'éveil ou qui le transmet et l'exprime. Donc, il y a un refuge autre. Mais le propre du refuge est d'être tel que dans sa pratique et sa compréhension profonde, il s'ouvre à la nature du refuge qui est finalement ce que l'on nomme dharmakaya, c'est-à-dire le corps absolu ou la réalité absolue dont la nature est parfaitement non-dualiste. Aussi, s'en remettons à ceux dont la protection est infaillible et ceux qui ne trompent pas et ceux à qui, si l'on s'en remet, permettent de se libérer véritablement, complètement. C'est pourquoi entrer en ce précieux refuge, précieux car il libère et conduit jusqu'à la réalité absolue, telle est la pratique d'un bodhisattva. Alors, la notion d'entrer en refuge est étroitement liée à la confiance. C'est la confiance qui permet d'entrer en refuge. Et la confiance, donc, en les trois joyaux, qui se développe petit à petit lorsque l'on rencontre, alors que peut-on rencontrer des trois joyaux ? On peut rencontrer le Dharma dans son expression, on peut rencontrer des représentants de celui-ci, des membres du Sangha. Et confiance qui peut venir lorsque l'on commence à comprendre les qualités des trois joyaux. Donc, la compréhension peut inciter l'expérience, l'expérimentation, qui est le début du cheminement, le début de la voie. Et aussi faire remarquer qu'il y a, concernant l'entrée en refuge, peut-être au moins quatre niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'entrée en refuge de fait, l'entrée en refuge rituelle, l'entrée en refuge par la pratique, et l'entrée en refuge dans la réalisation. L'entrée en refuge de fait, c'est ce que fait naturellement et même quelquefois sans le savoir toute personne qui met en pratique un enseignement ou pratique une méditation, un enseignement du Dharma. Cette personne simplement fait une expérience, elle a une certaine confiance, ne serait-ce qu'en la possibilité de ça ait un intérêt, une certaine valeur, autrement elle ne le ferait même pas. Donc il y a une certaine, certains pas, une certaine pratique, une certaine orientation qui peut être inconsciente, mais qui est néanmoins une façon d'entrer en refuge, c'est-à-dire de se tourner, de faire un pas vers l'éveil, même si la notion d'entrer en refuge n'est pas comprise comme telle ou n'est pas consciente. Ensuite, il y a l'entrée en refuge rituel, lorsque l'on rituellement récite la formule d'entrée en refuge et ou participe à un rituel d'entrée en refuge dans lequel il y a une participation du corps, de la parole, de l'esprit, et avec un précepteur et tout un protocole. Dans les pays bouddhistes, en général, il n'y a pas d'entrée en refuge rituel, parce que l'on entre en refuge bien au début d'une pratique, naturellement, et ça se fait comme ça, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de faire une entrée en refuge rituelle particulière. Alors, ça se fait dans les pays non bouddhistes ou à la demande ou dans certaines circonstances particulières. Mais il est important de comprendre que ça n'est pas indispensable et que l'entrée en refuge rituel n'est pas un baptême ou quelque chose de cet ordre qui aurait un pouvoir salvateur ou purificateur d'un péché originel ou de je ne sais quoi. Donc, il y a néanmoins l'entrée en refuge rituel. Et ensuite, l'entrée en refuge dans la pratique, eh bien, c'est le fait d'entrer en la présence des trois joyaux, le fait de suivre véritablement le Dharma, le fait d'agir comme pratiquant du Sangha, le fait d'être à l'écoute des membres du Sangha qui sont à l'origine de la transmission. C'est le fait d'avancer vers l'éveil, de cheminer. Donc toutes les pratiques sont ainsi entrées en refuge dans et par la pratique, et ce jusqu'à l'entrée en refuge ultime, qui est l'entrée en refuge au sens de l'entrée en la réalité fondamentale des trois joyaux, qui ne sont autres que les trois dimensions de l'éveil, donc l'entrée en refuge dans la réalisation et la réalisation de l'éveil dans ces trois dimensions, ce que l'on nomme traditionnellement les trois kayas. Donc, voilà quelques éléments sur l'entrée en refuge. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des observations concernant tout ceci ? Vous avez la parole ici, avant, ailleurs, nos amis de la toile.
Bonjour. Vous dites que qu'on se tourne vers l'éveil au début d'une pratique pour s'inspirer, pour on vise ça. Moi, ça m'inspire pas du tout. C'est pour moi, je trouve ça très nébuleux comme l'éveil. Je sais pas, on est dans la souffrance et moi ça m'inspire pas du tout de viser cet éveil qui est un concept que je maîtrise pas bien, j'imagine.
Quand on est dans la souffrance, qu'est-ce que l'on peut viser? De sortir de la souffrance.
Ouais, c'est peut-être juste le mot qui me bloque.
Voilà. Ben, sortir de la souffrance, se libérer de la souffrance, libération de dukkha, et la cessation de dukkha. Alors, la cessation de dukkha se dit l'état d'éveil. La cessation de la souffrance, du mal-être, du malaise, cessation de dukkha, et la voie qui conduit à la cessation de dukkha, qui est l'entraînement dans ces trois dimensions, le triple apprentissage. Et il est important, l'éveil, ou alors, on peut discuter d'ailleurs d'utiliser le terme d'éveil. En tibétain, à partir du tibétain, si l'on traduisait littéralement « sangyepa », qui signifie ce que l'on dit couramment comme « s'éveiller », ce serait littéralement accéder à la pureté et à l'épanouissement. Donc, il y a dans « sangyepa » un double mouvement qui est celui de la dissipation ou de l'évacuation de tout ce qui est négatif ou douloureux, négatif, douloureux ici, en termes de passion et d'illusion, et un mouvement concomitant d'épanouissement, de développement, d'épanouissement ou de réalisation de tout ce qui est positif et heureux dans la sagesse, les qualités positives, le bonheur, le bien-être. C'est difficile en français de trouver un terme qui puisse rendre cela. L'éveil est à comprendre comme la fin du rêve douloureux du samsara dans ses illusions et l'accession à un état de clarté, de lumière et de liberté. Ainsi.
Pochi. Bonsoir Ipuchi, vous avez parlé de trois dimensions de l'éveil, est-ce que vous pourriez les évoquer, s'il vous plaît?
Les trois dimensions de l'éveil sont les trois dimensions de la réalité absolue. Si tant est que l'on puisse parler de réalité absolue, ce dont il s'agit échappant en sa nature aux déterminations et aux concepts. Mais conventionnellement, et pour pouvoir donner une indication, on parlera de réalité absolue. Et les trois dimensions de la réalité absolue, en sanskrit, on parle de Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya. On entend par Dharmakaya la dimension transcendant toute forme d'illusion, de limitation, transcendant les noms et les formes, transcendant les concepts, dimension qui est aussi une une omniprésence. C'est la dimension absolue de l'éveil qui est qui embrasse et pénètre toute chose, qui est omniprésente, transcendante et omniprésente. Dans cette on peut, dans une image, dans une métaphore, illustrer ou suggérer cette dimension transcendante et omniprésente par l'espace, ou l'ouverture de l'espace, qui transcende toute catégorie et qui est infus, diffus, omniprésent. La deuxième dimension de l'éveil et sa plénitude. L'espace, si l'on garde la même métaphore, est plein d'une énergie, d'un souffle, énergie, d'une clarté non duelle, claire lumière. Et c'est la dimension Sambhogakaya. Et la troisième dimension consiste en les qualités éveillées, illimitées, qui sont celles de cette claire lumière. Ainsi. Donc, là, il y a beaucoup de façons de le dire, de le comprendre. C'est extrêmement riche et profond. Et ce sont ces trois dimensions que l'on dit certaines fois d'une façon très simple par ouverture, clarté et qualité, ou les bonnes qualités, la bonté des qualités éveillées.
Oui,
Anne, s'il vous plaît.
Oui, vous avez indiqué que au Tibet, il n'y avait pas vraiment de rituel d'entrer en refuge, mais je crois par exemple dans le... Il y a quand même des très longues descriptions du rituel d'entrer en refuge dans le livre de Gampopa, ou... Voilà, c'est juste pour avoir... Ça existe quand même. Mais...
Ça existait, et aussi dans des pratiques comme le sadhana de Chenrezig, où toutes les pratiques, il y a une forme... une formule d'entrée en refuge, mais le rituel d'entrée en refuge, bien qu'il ait existé, comme on le voit effectivement dans certains textes traditionnels, dont celui de Gampopa que vous mentionnez, n'était généralement pas pratiqué. Les enfants, on ne les faisait généralement pas entrer en refuge comme ça, dans une pratique rituelle. Ça existait, ça pouvait se faire, mais ça n'était pas du tout une nécessité ni une obligation. Et généralement, ça ne se faisait pas, parce que ça se faisait dans la pratique naturelle. Ce qui est important, il n'y a pas un pouvoir spécifique, particulier au rituel, si ce n'est celui d'amener le mouvement d'entrer en refuge, de faire participer, de faire vivre. Mais si on le fait dans une pratique directement, ce n'est pas la peine qu'il y ait, dans une pratique générale, ce n'est pas la peine de le faire dans une pratique spécifique.
C'est ça, ça n'a pas du tout le sens de sacrement qui est tel que c'est conçu dans l'Église catholique, par exemple, avec l'idée que le rituel confère quelque chose de transcendant.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça n'est pas, comme je le mentionnais, un baptême, avec le genre de conception que si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes damné. Voilà. Et qu'il faut baptiser tout le monde, y compris ses ancêtres, chez certains, pour les sauver a posteriori. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a, chez nos amis ailleurs, des questions?
Oui, un certain nombre. Tout d'abord, une question de Yana Petreman.
De?
Yana Petreman.
Yana, bonsoir.
Qui demande en fait comment dépasser ses doutes.
Comment dépasser ses doutes? Déjà, c'est bien et c'est normal d'avoir des doutes. Il n'y a que les sots qui n'ont jamais de doutes. Ou ceux qui essayent de s'enfermer dans une croyance en se persuadant qu'il ne faut pas en avoir. Les doutes sont à considérer, à examiner, et l'intelligence permet de clarifier beaucoup de doutes, la compréhension, une recherche, une quête, et il est important de poser ces questions, alors de chercher des réponses, cette quête, enquête, recherche, questionnement. Et l'ami de bien, l'ami de vertu est très important pour libérer des doutes. C'est une personne qui peut justement nous accompagner, répondre, aider. Et surtout, les doutes dissipent dans l'expérimentation. Il ne s'agit pas d'avoir simplement des réponses théoriques ou conceptuelles. Les réponses conceptuelles sont toujours ouverte au doute. Ce qui permet vraiment d'arriver à une certitude ou à une compréhension indubitable est l'expérience. L'expérience directe, vécue. Donc, c'est dans la pratique que ensuite les doutes se dissipent. C'est deux étapes. D'abord, écouter, considérer, questionner avec discernement, intelligence, et puis expérimenter. Et petit à petit, les doutes se dissipent. Mais ils sont un terreau où une matière première de la pratique. La pratique consistant justement petit à petit et étape par étape à examiner ces doutes et à les dissiper les uns après les autres.
Excusez-moi. Une autre question de Daniel Bragoni de La Rochette.
Daniel, bonsoir.
Rinpoche, peut-on dire que rentrer en refuge, c'est rentrer chez soi, en soi, et faire abstraction du mental et s'immerger dans le ressentir?
Entrer en refuge, c'est une façon de dire, oui, rentrer chez soi, home. Mais dans son chez soi fondamental. Dans son chez soi, justement, où il y a, où l'on est bien, home, sweet home, rentrer dans sa nature, dans son chez soi fondamental, dans sa nature fondamentale. C'est le sens profond du refuge et la voie consiste à suivre les trois joyaux et c'est eux qui nous conduisent à la maison. Merci.
Il y a plusieurs questions pour les différents niveaux d'engagement dans le refuge. Des questions qui me sont pas très bien compréhensibles, donc je vais essayer de les faire reformuler aux gens, mais
c'est peut-être pas, c'est pas des niveaux d'engagement, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ou c'est autre chose.
En fait, c'est autre chose parce que les personnes posent des questions au niveau du Vajrayana ou et dans le commentaire de Dilgo Khyentse Rinpoche, il parle des différents niveaux de motivation selon les trois yanas. Et peut-être ça, on pourrait faire une introduction à ça, parce que j'avais trouvé très intéressant.
Oui, mais peut-être pas tout de suite, parce que sinon on commence...
Ça sera compliqué.
C'est d'ouvrir un chapitre très important. Et pour l'instant, c'est le plus important, c'est entrer en refuge d'une façon générale. Et à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que justement nous passions un petit moment d'expérience, bien dans la posture, et de se tourner vers les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, comme destination, voie et compagnon de route. Cheminant sur la voie du Dharma vers la réalisation de Bouddha. C'est notre orientation et c'est ainsi simplement entrer en refuge. C'est ce que l'on vit lorsque l'on exprime ou répète une formule d'entrée en refuge, telle que en les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil. J'entre en refuge jusqu'à l'éveil parce que, arrivé à l'éveil, il n'y a plus à entrer en refuge puisqu'on est à destination, si on peut dire. Et comme on le verra ultérieurement, à cette orientation de l'entrée en refuge s'ajoute aussi une motivation altruiste et de bienveillance universelle que l'on nomme bodhicitta, qui, dans la formule que nous utilisons généralement, qui nous vient d'Atisha, dit par les bienfaits des dons et vertus, par les bienfaits de toutes les vertus, des six vertus, puis-je réaliser l'éveil, puis-je arriver à la réalisation pour le bien de tous les vivants, de tout vivant sans exception. Un instant en vivant ce dont il s'agit simplement. Et puis de conclure par ce que l'on nomme une dédicace ou la dédicace, dont le texte que nous répétons exprime bien ce dont il s'agit. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants, en la réalité absolue. Que tout soit propice. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et au revoir.